Je voudrais commencer par citer un midrash qui m'est revenu à l'esprit en préparant cet exposé. Le midrash raconte que, à la mort de Moïse, un morceau de la Torah a été oublié. Un nombre considérable d'enseignements se sont oubliés. Le midrash, d'ailleurs, avec son humour habituel, a donné le chiffre exact de ces enseignements qui se sont oubliés. Je vous avoue que je l'ai oublié. Mais il ajoute que Josué, après le temps du deuil qui a suivi la mort de Moïse, en a restitué une partie, et que par la suite, ça a été le rôle des étudiants de la Torah chez Baal-Pé, pas à travers leur travail et leur puissance de l'intelligence, de tenter et de réussir de les reconstituer. Bien entendu, toutes les comparaisons ne sont que des comparaisons, mais en relisant, en particulier le puits de l'exil, pour préparer les quelques remarques que je voudrais vous communiquer, j'ai eu un peu une impression analogue que je voudrais formuler de cette manière. Je crois que les contemporains et ceux qui ont eu le privilège d'avoir été non seulement les disciples, mais les élèves de manière directe d'André Néer, ont certainement entendu beaucoup plus que ce qu'un simple lecteur des livres que nous avons peut lire et trouver par lui-même, en tout cas à première lecture. Je crois qu'il va falloir énormément de travail de Torah chez Baal-Pé, de reconstitution de ce qu'il y a de sagesse orale qui accompagne ses écrits, pour arriver à pouvoir transmettre à l'avenir ce qui a été dit. Et une première remarque que j'essaierai de rendre la plus claire possible, je me suis, en préparant donc cet exposé, je me suis rendu compte que si j'avais dû écrire, je veux dire mettre par écrit, ce que je vais essayer, en tout cas en partie, de vous dire ce soir, j'aurais eu un travail considérable. Et j'ai toujours eu énormément de respect pour ceux qui sont capables à la fois d'enseigner et d'écrire, c'est pas mon cas, et je me rends compte qu'il y a là deux formes de transmission de la sagesse et de l'enseignement au sujet de la sagesse, qui sont différentes de nature, mais pour relier à la première remarque, je crois que l'importance de la Torah chez Baal-Pé, d'un enseignement qui a été transmis par écrit, est considérable, d'où l'importance des buts et de l'association dont on vient de nous parler. J'ai essayé de choisir parmi énormément de thèmes un sujet de réflexion à travers lequel j'essaierai d'insérer ce que représente, ce que désigne l'intitulé de l'exposé de ce soir, André Néer et le Maharal. Et le thème que j'ai préféré choisir, disons, est un thème de préoccupation culturelle dans la société juive contemporaine extrêmement important. Et il m'a semblé que c'était certainement la même problématique à laquelle le Maharal a dû se confronter en son temps, et à laquelle André Néer lui-même aussi s'est confronté, et que cette rencontre entre la pensée et la méthode d'André Néer, que nous découvrons d'autre part dans les livres où il ne parle pas du Maharal, où il traite de son propre enseignement de manière directe, et ce thème, je vais l'intituler « Babel et Alexandrie ». Alors j'en parlerai pendant une première partie de l'exposé, de toute sorte de mettre en évidence l'importance de cet événement dans l'histoire de la littérature juive qu'a représenté l'apparition de ce livre, Le Puits de l'Exil, où pour la première fois, les lecteurs francophones, disons, qui s'intéressaient à l'enseignement du judaïsme, ont eu le choc de la découverte du Maharal. Et ce livre a paru, si mes souvenirs sont exacts, en 1966, et il y a eu, effectivement, à cette époque, un choc en retour dans au moins trois milieux. Le premier milieu était l'ensemble de ceux qui attendaient un message de ce type et de cette nature. Et j'espère pouvoir un peu contribuer ce soir, en quoi que ce soit, à essayer de dire quelle a été non seulement son originalité, mais son importance en tant que moment historique de quelque chose de radicalement nouveau qui s'introduisait, en tout cas au niveau de l'écrit, dans les préoccupations culturelles de la société juive en général et de la société française s'intéressant au sujet concernant le judaïsme. Ce premier donc, milieu était celui de ceux qui, consciemment, inconsciemment, lucidement ou moins lucidement, en tout cas attendaient un événement de ce genre. Pour mettre en évidence ce qu'a représenté la constitution de ce premier milieu, je n'ai pas encore défini, mais que je désignerai peut-être par allusion, par ceux qui dès lors se considèrent comme les disciples de la pensée d'André Néer, avec cette partie privilégiée à laquelle j'ai fait allusion de ceux qui ont pu avoir donc la possibilité de l'écouter de vive voix, de l'écouter dans l'enseignement que nous appelons en hébreu Torah Sheba'al Peh. Et les deux autres milieux étaient premièrement un milieu que je vais ranger sous la rubrique de Alexandrie. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, depuis très longtemps, les penseurs, les savants, les historiens de la pensée se sont penchés sur la signification, le contenu et l'importance de la tradition culturelle, spirituelle, philosophique, religieuse du judaïsme. Mais ils l'ont fait à travers une optique et de contenu et de méthode que j'appellerais de traduction. Ça me rappelle, ça nous oblige à nous référer à cet événement historique que j'appelle Alexandrie. Après la destruction de la nation hébraïque, où la tradition qui va devenir la tradition juive était pensée, étudiée et vécue directement en hébreu, c'est-à-dire dans la langue originelle de cette tradition juive, donc hébraïque. Après donc la destruction de la nation hébraïque, il y a eu deux foyers très différents du point de vue des problèmes qui vont nous occuper de la culture juive dans la grande diaspora qui a commencé à partir de la destruction du deuxième temple. Un de ces foyers, c'est Alexandrie, où il y a une sorte de parti pris de traduire l'identité hébraïque et donc tous ses contenus culturels dans la langue dominante du temps au niveau des préoccupations intellectuelles et culturelles et spirituelles du monde civilisé de ce temps. Cette langue était le grec. Et donc il y a eu tout un pan, tout un morceau de l'énergie culturelle et spirituelle juive de diaspora qui, tout en se référant aux sources hébraïques et principalement, bien entendu, la Bible et les premiers corpus, comme on dit, il faudrait dire corpi en latin, les premiers ensembles de mises par écrit de la tradition orale, avait, je dirais, ce parti pris délibéré de prendre, du point de vue de la méthode, le point de vue de la pensée grecque traitant de la pensée juive, et du point de vue du contenu, une tentative de traduction en catégorie, en préoccupation grecque, le mot ayant ici son sens le plus simple et le plus large à la fois. Et pendant des siècles, a existé une identité mixte de la tradition culturelle juive qui s'éloignait de plus en plus de son origine scripturaire hébraïque et qui, en fin de compte, à mon sens, ceci peut être sujet de discussion avec les historiens et les spécialistes, mais c'est une indication de pensée que je voudrais formuler, a fini par nourrir la tradition chrétienne. Il y a eu un phénomène de traduction de la pensée hébraïque et de sa tradition en grec, mais dans cette traduction, finalement, c'est la perspective de la pensée chrétienne qui s'est beaucoup plus nourrie que n'aurait été celle d'une diaspora juive de langue grecque qui a finalement disparu. Ça, c'était donc ce que j'appelais donc Alexandre. D'un autre côté, un tout autre univers de la diaspora juive, c'est Babel. C'était un parti pris de rester fidèle à la problématique hébraïque de la tradition hébraïque, traduite en araméen, qui était une langue juive, une langue, je dirais tout à l'heure, qu'elle fait partie, avec l'arabe et le latin, selon les traditions du Midrash, des langues véhiculaires de la révélation, selon la tradition juive elle-même. Mais une langue différente de l'hébreu, mais quand même suffisamment proche de l'hébreu, pour garder non seulement une familiarité, mais une sûreté d'authenticité de la légitimité de cette traduction en araméen. La traduction de la tradition juive en araméen, qui a donné finalement le monde du Talmud, le monde des Yeshivot, en fin de compte, pour schématiser, Babel, était d'une toute autre nature que la tentative de traduction et d'exposé de la pensée hébraïque à travers le grec. Alexandrie, d'une certaine manière, avait pour postulat que le passé hébraïque était révolu, alors que Babel, la tradition araméenne de traduction de l'hébreu, Babel avait pour postulat qu'on entrait dans un long temps culturel de civilisation qui serait une grande parenthèse entre le passé hébraïque qui avait été détruit et l'espérance d'un avenir hébraïque à reconstituer. Et je pense qu'on peut dire que l'espérance messianique a beaucoup plus nourri la fidélité à travers Babel que la tentative de fidélité à travers Alexandre. Or, cette bipolarité de la relation à la tradition de pensée d'Israël et du judaïsme, eh bien, se retrouve à travers les siècles jusqu'à nous dans des formes différentes, mais elle s'est trouvée de façon très intense au temps de la Renaissance. Si on fait un bilan en nous aidant de tout ce que nous disent les historiens à ce sujet, et en nous aidant de l'analyse qu'en a faite André Neher dans Le Puits de l'Exil à propos du Maharal, si on fait un bilan des positions de cette bipolarité au temps de la Renaissance, alors on s'aperçoit que d'un côté, et encore une fois, sans du tout préjuger de l'authenticité, de la fidélité individuelle des auteurs qui peuvent être cités. D'un côté, il y a les maîtres de la pensée juive qui ont radicalement opté pour la problématique philosophique. Or, la problématique philosophique, c'est la problématique de la tradition grecque, en tout cas de la tradition culturelle grecque. J'en dirai quelques mots supplémentaires à propos des analyses que nous aurons à rencontrer. Mais avec, encore une fois, ce postulat non dit que le point de vue est que la pensée universelle, mais il faut lire l'intuition grecque de la pensée universelle, est le critère du jugement, le critère de l'analyse, le critère de l'évaluation, le critère de vérité, et qu'elle parle du contenu de la pensée hébraïque comme un sujet parle d'un objet. Et nous avons d'ailleurs, jusqu'à notre temps, jusqu'à notre contemporanéité, beaucoup souffert, je parle des milieux des intellectuels juifs, surtout universitaires, beaucoup souffert de ce postulat non élucidé. C'est-à-dire que, par définition, les données immédiates de l'évidence culturelle sont celles de la pensée grecque, et que le judaïsme est un objet d'étude, à la limite, et suivant les modes et suivant les temps, exotique, antique, parfois même archéologique, mais en tout cas objectivisé, comme si, et les intellectuels juifs eux-mêmes étaient piégés dans ce piège, comme si, bien entendu, il s'agit d'un objet de science qui, à la limite, se rangerait dans des monographies de musées. Je schématise intentionnellement, mais il est bien évident que c'était l'atmosphère des méthodes et des contenus d'études des savants du judaïsme, au temps de la Renaissance et jusqu'à notre temps à nous, de ceux qui avaient opté, choisi comme critère de leur attitude intellectuelle, les critères de la philosophie. Et dans ce monde que je continue à appeler Alexandrie, mais qui ne s'appelait plus Alexandrie au temps de la Renaissance et jusqu'à notre temps contemporain, et dans ce monde de grands noms, de grands théologiens, de grands philosophes, de grands maîtres de la tradition juive finissaient par se ranger. En tout cas, dans le vocabulaire officiel de l'université traitant du judaïsme. Il faut lire ce livre ou alors prendre le temps d'énumérer à travers les siècles toutes ces grandes figures de la pensée juive qui ont, c'est le mot qui me revient aux lèvres, qui ont été piégées par la problématique philosophique. Nous verrons tout à l'heure à quel point notre génération a été privilégiée d'avoir rencontré quelques grands maîtres, dont André Neher, qui nous ont aidés à démystifier ce postulat non dit et d'autant plus insidieux. J'espère que j'étais suffisamment clair. Cette attitude intellectuelle traitant de la pensée juive continue à sévir, si j'ose dire, mettez le terme entre guillemets, dans les universités, même israéliennes. Je dis bien dans les milieux universitaires. Et pour la résumer d'une seule phrase, l'évidence, c'est l'humanisme grec. Et puis, il y a intérêt à analyser, à remémoriser, à commenter. Et donc, énormément de livres paraissent à ce sujet, les contenus de la tradition juive, donc hébraïque, mais avec ce postulat qu'il s'agit de quelque chose d'ancien et de révolu, et que si même les savants qui s'en occupent sont d'autre part des juifs fervents, des juifs pieux, à l'échelle individuelle des juifs croyants, c'est un phénomène d'ordre individuel, mais qui ne concerne pas l'évidence de vérité des sciences qu'il traite, dans ce cas, les sciences du judaïsme. Ça pourrait être dit encore de différentes manières, mais je crois qu'il suffit de dire cela pour caractériser ce premier univers, qui est le deuxième milieu dont je parlais, et qui réagit avec choc à l'apparition de ce livre, donc en 1966. Le troisième univers, c'est l'univers des Yeshivot, c'est-à-dire où il y a le parti pris de tenter une permanence de ce qu'a été la tradition hébraïque, mais dans ses méthodes propres, dans ses intuitions sui generis, quitte à s'enfermer dans un univers intellectuel clos du point de vue du milieu précédent, et c'est le milieu des yeshivot, qui sont non peut-être pas toujours à l'échelle individuelle, mais en tout cas officiellement en tant que tel, coupés de la culture extérieure, de la culture universelle, de ce qui se passe en dehors du ghetto juif de diaspora. Je crois que cette analyse, bien que brève, nous montre suffisamment quel était l'état des choses, d'une part à la Renaissance, et encore une fois dans les deux catégories de grands noms doivent être cités, et parfois des noms que l'on pourrait citer dans les deux catégories à la fois. Nous avons de grands talmudistes, de grands maîtres du Talmud, comme par exemple Maïmonide, qui était, en tout cas à l'université, rangé en tant que philosophe dans ce que j'ai appelé Alexandrie. Et la liste de ces citations pourrait être extrêmement longue. C'était donc l'état des choses au temps de la Renaissance, et c'était l'état des choses jusqu'à la veille de la dernière guerre mondiale. Or, voici que va apparaître un troisième point de vue. Un troisième point de vue, c'était celui du premier milieu dont j'ai parlé, celui qui était en attente d'un langage, non pas seulement de trait d'union, mais d'une inversion, d'un renversement des points de vue de la réflexion. C'est-à-dire que le sujet de la réflexion n'est plus pris dans les intuitions de la conscience grecque, mais dans les intuitions de la conscience hébraïque, et à un niveau de culture générale tel qu'il permet de traiter objectivement des grandes questions posées par la culture grecque, à une échelle universelle, à l'indice d'un humanisme, le mot ayant le sens le plus simple et le plus clair qu'il peut avoir, mais du point de vue de l'intuition, de l'évidence, de la conscience hébraïque parlant d'elle-même. Alors d'un côté nous avions le monde de la philosophie, de l'autre côté nous avions le monde du Talmud. Le monde de la philosophie est tout ce qui va avec, le monde du Talmud est tout ce qui va avec. Dans le monde de la philosophie, il y avait une, que j'ai appelée Alexandrie, il y avait une confusion de catégories, entre deux catégories, un vocabulaire que l'on emploie très souvent comme si c'était synonyme, mais je voudrais éclairer un peu la différence de ces deux termes pour montrer la gravité, ce qu'était la gravité du problème. La pensée juive et la pensée des juifs. On confondait ce que l'on voulait entendre et ce à quoi on voulait faire allusion par la pensée juive, la pensée sui generis de la tradition juive, dérivée de la tradition hébraïque, qui est l'exégèse d'une prophétie, la prophétie hébraïque, et d'autre part la pensée des juifs. Ce que chaque juif, dans l'envergure de son génie intellectuel propre, peut dire, lui, en tant que penseur à la manière des Grecs, dans sa réflexion sur le contenu de la pensée juive à proprement parler. Et il y avait une confusion absolue entre ces deux catégories. Pour en donner un exemple très simple, si l'on cite des penseurs comme Maïmonide, Judas Lévi ou d'autres, eh bien, bien évidemment, il faut les ranger dans la première catégorie, celle de la pensée juive. Et chacun d'entre eux a son style propre, son style d'expression, ce que le philosophe appelle sa manière de constituer sa grammaire de lecture de l'univers, mais indépendamment de cette équation personnelle du génie individuel, eh bien, en tant que sujet de l'étude et du point de vue de l'objet de leur étude, ils se rangent dans la pensée juive. Et ils avaient d'ailleurs, à travers les siècles, l'honnêteté absolue d'indiquer la différence très précise entre ce que la tradition dit dans le consensus traditionnel et d'autre part ce qu'était leur opinion personnelle, en mettant dans ce terme d'opinion le sens le plus fort. Je cite les expressions traditionnelles à ce sujet, qui ne sont pas seulement des expressions d'humilité, mais des expressions d'honnêteté fondamentale. Les fi aniu dati, veli nira che. Et ça, c'est la première catégorie des penseurs juifs, de la pensée juive. Mais si je cite d'autres noms, comme par exemple Spinoza, comme par exemple Bergson, qui sont indéniablement des penseurs d'origine juive, eh bien, ils se rangent dans la deuxième catégorie. Ce sont des penseurs juifs, de la pensée des juifs, et qui, par hasard, par ricochet de la réflexion, concernent la pensée juive à proprement parler. Dans le monde que j'ai appelé Babel, eh bien, ce présupposé d'une négation a priori de l'importance de l'existence même de la problématique philosophique que je viens de décrire assez rapidement était un présupposé officiel. Nous savons qu'à l'échelle individuelle, beaucoup de rabbins qui se rangeaient dans ce monde de Babel avaient une culture universelle et humaniste, philosophique, individuelle, très poussée, très profonde. Mais il y avait une sorte de séparation radicale entre leur réflexion en ce qui concerne la tradition juive elle-même et d'autre part leur propre problématique de penseurs juifs à l'échelle individuelle concernant les problèmes de la philosophie. Pour résumer, je dirais qu'il y avait d'une part les questions de philosophie, il y avait d'autre part l'éventualité des réponses de la tradition, mais c'était séparé. Très rares ont été, à travers les siècles, ceux qui ont donné à notre peuple, à l'humanité et à la culture humaine en général, un langage de trait d'union qui faisait correspondre les questions et les réponses. Le Maharal a été un d'entre eux. J'ai été frappé par un terme qu'Andrenière emploie pour le désigner, en son temps, pour désigner le Maharal, il emploie le terme d'initiateur. Et ceci se trouve à la page 14 de l'introduction du Puits de l'Exil. Je crois qu'on pourrait y ajouter non seulement initiateur, mais précurseur. Il y a quelque chose qui a beaucoup frappé notre génération, et Andrenière le signale dans son introduction. C'est que l'importance de l'enseignement du Maharal, indépendamment des cercles privés de ses disciples privilégiés, n'a pas été tellement grande de son temps. Ce n'est que de notre temps, quelques siècles après, du 16e au 20e, fin du 16e jusqu'au 20e, que l'on commence à étudier sérieusement le Maharal. Il y a quelque chose d'assez significatif dans le sort que l'histoire fait aux initiateurs qui en même temps sont des précurseurs, et je prendrai d'ailleurs ce thème un peu plus tard. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce maître, le Maharal, que nous avons de façon indéniable comme maître de notre temps, s'est affronté à ce problème Alexandrie-Babel au temps de la Renaissance. Or, quel a été son génie propre ? Bien, là, je reprendrai un certain nombre des analyses historiques qu'Andrenière nous donne, d'ailleurs, dans son introduction, pour indiquer l'originalité, la spécificité du Maharal dans le problème que je viens de poser. J'espère qu'il a été suffisamment clairement décrit, selon ce que M. Neher nous apprend. Ce qu'il a été le premier à avoir eu le courage d'affronter l'univers du Midrash à l'univers de la philosophie. Non seulement en réhabilitant le contenu de sagesse que véhiculait le Midrash, mais en mettant en évidence une Ashkafat Olam, comment dire ça en français, toute une problématique de connaissance de la vérité du monde qui était sous-entendue dans les enseignements ponctuels de tel ou tel Midrash. Il s'agissait, et c'est la révolution qui apparaît avec le Maharal, de mettre en évidence la cohérence d'un système de pensée considérable dans son envergure et très simple dans sa cohérence, qui était la pensée de la pensée hébraïque, la grammaire de la pensée hébraïque, et démontrant à la fois qu'on ne pouvait comprendre le message des prophètes hébreux, la Bible, qu'à travers le Midrash, et que le Midrash fournissait ce que tous les penseurs auxquels j'ai fait allusion cherchaient dans leur quête de ce qu'on pourrait appeler la pensée juive, la philosophie juive, la sagesse juive. Que cela n'était pas formulé à la manière d'un système de philosophie de type grec, à la manière des théologiens qui avaient adopté le système de la méthode de la systématisation de la pensée grecque, mais que le temps était venu de le formuler de manière sui generis, escalité, l'hébreu disant ce que lui sait, comprend des problèmes qui se posaient à la philosophie. Dans le monde précédent, que j'ai essayé de décrire très schématiquement, eh bien, les philosophes posaient les questions de la philosophie et tentaient de faire répondre la Torah aux questions de la philosophie, mais le contemporain et par la suite nous-mêmes étaient toujours déçus d'une sorte d'artificiel, d'une sorte de plaquage entre la manière dont le philosophe pose les questions de la vérité du monde et la manière dont le faiseur de système, disons, le constructeur de maçonnerie intellectuelle, comme dit André Néer, tentait de faire répondre à sa manière tel ou tel enseignement de la tradition biblique. L'intuition fondamentale dans le monde de Babel, c'était qu'il fallait refuser comme impie ou comme risquant d'être impie les questions de la philosophie. D'une part, nous avions une pensée en question sans réponse sérieuse, et d'autre part, nous avions une pensée en réponse, mais celui qui ne faisait pas partie du monde de Babel ne pouvait pas comprendre à quelle question ces réponses étaient censées correspondre. Mais il y a eu entre ces deux milieux, Babel d'un côté, Alexandrie de l'autre, toute une lignée de grands penseurs dont le Maharal en son temps a récapitulé l'importance et qui ont accepté comme légitimes les questions de la philosophie, mais n'ont accepté comme légitimes que les réponses de la Torah, à la condition de pouvoir disposer d'un langage de même niveau culturel et qui pouvait permettre de faire correspondre questions et réponses. C'est cette révolution-là qui s'annonçait à l'échelle individuelle chez tel ou tel grand auteur de la tradition juive, qui sont cités, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais qui se trouvaient récapitulés par le Maharal, par ce trait de génie, c'est plus qu'un trait de génie, par cette réussite d'avoir érigé le Midrash comme interlocuteur de la philosophie. Je crois qu'il faudrait insister sur ce point. C'est là qu'à mon sens a été la convergence entre le génie d'André Néer pour lui-même et d'autre part cette œuvre du Maharal à qui il a prêté la formulation de la méthode que je tente de décrire avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement un contenu ponctuel d'éclairage, d'enseignement sur tel ou tel souci, préoccupation, perplexité philosophique, une espèce de raccordage qui risquait toujours l'allure piétiste et donc décevante pour l'intellectuel dans son sens, dans le sens habituel du terme, qu'il soit de la Renaissance, d'avant la Renaissance ou d'après la Renaissance, mais il y avait une problématique complète de l'affrontement aux questions de la philosophie. Bien, je ne pouvais pas trop m'étendre sur cette première partie des remarques que je voudrais vous communiquer, mais j'espère en avoir dit suffisamment pour faire comprendre ma phrase de tout à l'heure. Lorsque ce livre est apparu, il y a eu des réactions importantes dans trois milieux. Le milieu d'Alexandrie était très inquiet et négatif. On comprend pourquoi. Le milieu de Babel était très réservé. Mais par contre, dans le troisième milieu, celui que je décris comme étant ce qui était dans l'attente d'une telle révélation, mais non seulement s'est réjoui, mais est devenu le milieu des disciples et des lecteurs d'André Néer. Pour notre sujet spécifique, il les a initiés à la lecture du Maharal à travers son génie propre. Et j'ai dit donc tout à l'heure qu'il avait employé le terme d'initiateur. Je crois que c'était essentiellement dans cette réhabilitation, du Midrash comme clé de la pensée juive qu'il a été initiateur et précurseur. Je me souviens encore d'un temps, c'était immédiatement après la guerre mondiale, où lorsque nous parlions dans les milieux éclairés de Midrash, on nous regardait d'un air inquiet, ou même lorsque nous citions Rashi, je me souviens, on nous regardait de l'air inquiet de quelqu'un qui se propose de chercher dans son carnet des adresses d'asile psychiatrique. Et finalement, vous savez que tout cela a changé. Aujourd'hui, lorsqu'on traite des contenus de la pensée juive, cela va de soi, pas seulement chez les juifs, ça va très vite, cela va de soi que la référence à Rashi, la référence au Midrash, à la Haggadah, tenez-vous bien, au Zohar, c'est sérieux. Mais il y a eu un temps où cela a été suspect dans les milieux dits universitaires. Il y avait donc trois réactions radicalement différentes. J'en ai terminé sur ce point. Eh bien, je partirai donc de cette remarque. C'est la première fois que nous trouvons avec le Maharal, et André Néer l'expose de manière magistrale, une systématisation de la pensée juive à travers les enseignements du Midrash. Je voudrais vous donner très rapidement deux tableaux des principales œuvres du Maharal. Et bien entendu, ce que je vais dire là, je m'inspire très directement de ce qu'André Néer a dit. On peut très bien admettre que tel ou tel point, non pas de détails, mais de perspectives, puisse être pris, réétudié, critiqué. Mais dans tous les cas, c'est la première fois qu'une synthèse aussi majestueuse frappait le public cultivé concernant. Je m'entends parler et je me rends compte que 40 ans après, on se rend peut-être très peu compte de tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une mutation de l'atmosphère des études juives dans le sens de ce qu'André Néer va appeler un peu plus tard « défense et illustration de la Haggadah et du Midrash » en parlant de Be'er HaGola. C'est d'ailleurs du livre du Maharal Be'er HaGola qu'André Néer a pris le titre de son livre « Le puits de l'exil » Be'er HaGola. Je vais en parler immédiatement. De ce qu'on pourrait en notre terme dire une apologétique du Midrash, une apologie du Midrash, mais si nous étions restés au niveau de l'apologie, c'est-à-dire une sorte de défense passionnée parce que fervente de l'importance du Midrash, cela n'aurait pas eu le même résultat. Et il s'agit plus exactement d'une défense et une illustration du Midrash dans le contenu et dans la méthode. Et bien d'abord, le Maharal a pensé, et déjà dans l'intitulé de ce que je vais citer, on sent les schémas de la Kabbalah qui sont derrière l'enseignement du Midrash, à penser l'organisation de la pensée juive en six grands enseignements. Il n'a eu le temps de n'en rédiger que deux. Mais déjà dans le premier, comme nous dit André Néer, le Sefer Gvurot HaShem, dans le premier, déjà toute la perspective encyclopédique de cette pensée gigantesque a été donnée. Je parlerai tout à l'heure des autres ensembles des livres du Maharal, mais d'abord sa synthèse. Eh bien, il s'inspire d'un enseignement de la Kabbalah selon lequel la vérité irradie dans le monde à travers six sphères principales. Ceux qui sont déjà familiers au vocabulaire kabbaliste y reconnaîtront les six sphères de la sphère Tiferet, depuis Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Et voici le plan qu'il projette. J'ai oublié de vous dire, mais je crois que c'est le moment de le rappeler, que ce qui a fait peut-être le génie du Maharal est quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire de la littérature. Il n'a commencé à écrire que très tard. La tradition dit que c'est à l'âge de 70 ans qu'il a commencé à mettre par écrit son enseignement. Il en résulte que nous avons avec les textes du Maharal des textes traditionnels dans le sens strict, c'est-à-dire qu'ils doivent s'étudier, j'allais dire à la loupe, mais plus que ça, à la lettre. Chaque mot est à sa place et nous étudions les textes du Maharal comme nous étudions les textes du Talmud, comme nous étudions les textes du Midrash lui-même. C'est-à-dire tant que nous n'avons pas rendu compte pour nous-mêmes de la traduction exacte, hébreu-hébreu d'ailleurs, de chaque terme à sa place, de chaque nuance, de chaque lettre, nous n'avons pas encore lu. Je crois que cela est dû au fait qu'effectivement, et nous avons dans le Talmud beaucoup d'enseignements à ce sujet, qu'il s'agit d'un enseignement qui a été formulé à la suite d'une très longue maturation et expérience d'enseignement. Ce qu'on a dit de Rashi, que la Torah a été donnée avec le commentaire de Rashi, ben certains d'entre vous ont écouté cette perle traditionnelle. Je l'ai écouté pour la première fois de cette manière. Bereshit bara Elokim et Tsamim et Taaret. Bereshit, ça veut dire Bepirush Rashi. Avec le commentaire de Rashi, Dieu a créé le ciel et la terre. D'aller jusque-là. Mais je crois que déjà de notre temps, mais pour les générations à venir, il sera de plus en plus évident qu'on pourra dire du Maharal ce qu'on a dit du Rashi. Ce sont des textes qui viennent prendre corps avec l'ensemble des Midrashim qui est. Je reviens donc à cette première synthèse. C'était d'abord Sefer HaGedoula, le livre de la grandeur, dont le thème devait être le Shabbat et le sujet, la création. Ce livre n'a pas été écrit. Et ensuite, Sefer HaGvura, et vous suivez les Sphirot, Chesed, Gvura. Chesed s'appelle en hébreu Gdoula aussi. Sefer HaGvura, le thème, c'est le livre de la puissance, de la vaillance. Le thème, c'est quelque chose de fondamental pour l'enseignement de la tradition juive et surtout ce qu'elle a à dire au monde entier, à l'universel, des thèmes de l'exil et de la libération de l'exil. C'est un sujet très important parce qu'il touche, et nous l'avons entendu de différentes manières, vous le retrouverez dans le livre d'André Neher, il touche à une question extrêmement importante. Comment s'expliquer que le monde entier a été subjugué par la Bible? Comment s'expliquer que le monde universel cherche son salut dans le salut d'Israël? Quelles que soient les ingratitudes, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses et dures, on ne peut pas nier qu'il y a une sorte de consensus universel que si salut il y a, c'est le salut d'Israël, et le souci est d'y participer. On le jure, mais en le jurant, c'est une manière de participer. Que s'il y a une espérance, il faut la chercher chez les Juifs. Je n'hésiterai pas à citer ici un verset des Évangiles, c'est pas à sa place du tout, mais c'est assez éclairant. Nous le citons souvent dans nos colloques avec les chrétiens. Les Évangiles vont jusqu'à dire le salut vient des Juifs. Ils ne disent pas le salut vient du Christ. Ils disent le salut vient des Juifs. Il y a là une intuition extrêmement profonde. Eh bien, ça, c'est le thème de la sortie d'Égypte. Tout se passe comme si la situation de créature est une situation d'exil et qu'à l'échelle universelle, les créatures pressentent cela. Ils rencontrent l'histoire d'un peuple et son message dont l'histoire est l'histoire de l'exil, est une histoire d'exil. Et que la foi, que la délivrance de cet exil est possible, est devenue, à travers tout le travestissement, le modèle de la foi, dans toutes les fois qui s'inspirent de la foi d'Israël. Ça, c'est le Sefer HaGvura. Et donc André Neher a raison de voir dans ce livre la clé de voûte de l'œuvre du Maharal. Lorsqu'on étudie Gvurot Hashem, alors on s'initie déjà dans le contenu à ce que j'essaie d'indiquer tout à l'heure dans la forme, que le Midrash, c'est pas simplement l'exégèse ponctuelle de tel ou tel point de la lecture biblique, qu'il y a derrière une conception du monde qui s'exprime dans les paroles du Midrash. Seul le génie des grands génies peut lire le non-dit, si j'ose dire, le non-écrit des mots du Midrash et restituer face à la problématique de la philosophie, la problématique de la pensée juive. Ensuite, c'était le livre dédié à Shavuot, la révélation de la Torah, un livre qui devait s'appeler le Sefer Tiferet Israël. Quatrièmement, un livre qui a été écrit et qui se réfère à la Sphira Netzach, Et le livre, c'est Netzach Israël. Et ce livre, le livre de l'éternité d'Israël, a pour thème l'exil, la destruction du temple, le Nafab, l'exil et la délivrance de l'exil, la Géoula, la rédemption en français. Ces deux livres, donc, Gvorot Hashem et Netzach Israël, ont été écrits. Le cinquième livre devait être Sefer Ahod, le livre de la louange, dédié, enfin, dans le. Je lis ce que j'ai sous les yeux, mais dont le sujet devait être la fête de Sukkot et le thème de la prière. Le sixième livre, relié à la Sphira Yesod, devait s'appeler Sefer Shamaim Baaret, le livre des cieux et de la terre, et le sujet devait être Rosh Hashanah et Yom HaKippourim. Il y a dans tous les autres livres du Maharal un certain nombre d'indications éparses et les exemples de thèmes généraux qu'Andrénéa nous donne à la fin du livre dans la troisième partie, en particulier sur le thème de la prière, montrent que effectivement tout ce travail reste encore à faire pour restituer la synthèse des différents enseignements ponctuels qui sont épars dans le Midrash déjà et dans l'œuvre du Maharal lui-même en tant qu'il est l'exégèse du Midrash. D'autre part, il y a deux grands livres qui traitent de l'éthique, la partie de l'éthique du judaïsme. Dans ce premier ensemble que j'ai brièvement cité tout à l'heure, c'est la conception du monde selon la Torah, selon la tradition de la Torah. C'est ce que, après la révélation, le penseur juif peut dire à l'universel humain du sens de sa destinée, mais encore une fois, en paroles juives, à travers les catégories de la tradition hébraïque. Celles qui sont connues dans le monde de Babel, mais qui ne sont pas citées en réponse à la question de l'homme universel. Celles qui sont souvent connues par les penseurs juifs se situant dans Alexandrie, mais qui, je ne sais pas quoi dire, pudeur exagérée, préfèrent employer l'analyse, le vocabulaire et la systématisation philosophique, et par conséquent aboutissent à occulter la spécificité de la Torah et donc aussi son contenu. Là, la deuxième partie traite des problèmes de l'éthique. Il y a d'abord un livre très important. Je dois dire que lorsque lorsque j'ai personnellement eu le privilège de rencontrer le Maharal à travers l'enseignement de mon maître Jacob Gordin, eh bien, c'est premièrement le Derech HaChaim, le livre que je vais citer, que j'ai rencontré et qui a situé pour moi le centre de la rosace de tout cet enseignement. C'est un commentaire des Pirkei Avot. Et là aussi, nous trouvons l'essentiel de ce que va faire l'originalité du Maharal et que André Neher citera sous le nom de la catégorie du Emsar, Aderecha Emsari, l'enseignement de la vérité du milieu dont je parlerai tout à l'heure et qui fait l'essentiel et la spécificité de ce qui se passe dans cette découverte du Maharal. Donc le Derech Haïm et Netivot Adam sont toute une série de chapitres, de thèmes importants des grandes catégories de la pensée religieuse juive. Et enfin, nous arrivons au livre principal qui a été la clé de cette découverte, c'est le Be'er HaGola. Et là, comme je l'ai cité tout à l'heure, il s'agissait d'une défense et illustration du Midrash. Je crois qu'il y a là, je vais parler grec, vous m'en excusez, mais c'est l'expression qui me vient à l'esprit, l'alpha et l'oméga de tout notre sujet. Ça commence par le Midrash et ça s'achève par le Midrash. C'est-à-dire, d'une part, la découverte du Midrash comme levier de la pensée juive dans sa spécificité, et d'autre part, la découverte des contenus du Midrash comme étant la révélation pour le temps des Juifs de ce qu'avait été la vérité de la prophétie hébraïque. Quand je dis la révélation pour le temps des Juifs, c'est-à-dire le temps où la tradition d'Israël s'est située dans le même monde que celui de la philosophie, le monde d'Alexandrie. Le monde de la philosophie commence quand la prophétie se tait. Il n'y a pas seulement une indication d'âge historique, mais de contenu même. Les Hébreux vivaient au temps de la prophétie. Le monde était un monde où la révélation était expérience immédiate. Alors que lorsque le temple a été détruit, lorsque la nation d'Israël a été détruite, la prophétie cesse. Et les maîtres du Talmud, du Midrash, de la Kabbalah, fidèles aux prophètes, se trouvent situés existentiellement dans le même monde que celui des philosophes. C'est-à-dire un monde où Dieu ne parle plus, ou plus exactement, un monde où l'on n'entend plus cette parole dont le prophète avait parlé. Parce que, si j'ose dire, la capacité d'écoute de cette parole a été détruite, la nation d'Israël et ses prophètes. On entre dans un temps de, en employant une expression andrénière, du silence de Dieu. Non pas qu'il ne parle pas, mais on ne peut plus l'entendre. Sans doute, dans l'économie de la providence pour l'histoire du monde, l'essentiel de ce qui avait à être entendu avait été déjà entendu par les prophètes hébreux. Mais voilà que les fidèles de la prophétie hébraïque, les juifs, se trouvaient situés dans le même monde que celui de la philosophie. Et donc, d'une certaine manière, défavorisés par rapport à la problématique philosophique. Et là, dans la réhabilitation du Midrash, eh bien, le Maharal va redonner ses lettres de noblesse, si j'ose dire, à la tradition prophétique à travers l'enseignement oral. Voici les 7 points que traite Be'er HaGola, et il y a là, non seulement au niveau de la polémique avec, d'une part, le monde de Babel et d'autre part, le monde d'Alexandrie, mais il y a là, du point de vue du dévoilement du génie propre à la tradition de pensée d'Israël, les 7 sujets principaux que le Maharal traite. Premièrement, il discute des affirmations de l'illégitimité de la loi orale. Deuxièmement, il discute l'accusation des illogismes du raisonnement midrashique.